Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast des maternelles. La grossesse, l'accouchement, la parentalité, ce podcast s'adresse à tout le monde. Aux mamans, aux papas, aux futurs parents et à tous les autres. Au sommaire de ce premier épisode, la péridurale.
Je voulais pas de péridurale, c'était presque sûr début de grossesse. Quand j'ai commencé à me renseigner, c'était non dans ma tête.
Accoucher avec ou sans péridurale, la question interroge de plus en plus les futures mères. 15% des femmes enceintes voudraient s'en passer. Alors est-ce un phénomène de mode ou une volonté de se réapproprier son accouchement, de mieux sentir, de mieux ressentir l'arrivée du bébé? Comment se préparer à accoucher sans péridurale? Est-ce un échec que de craquer et de finalement la demander?
J'en pouvais plus et puis je voyais que l'équipe médicale, pareil, j'avais plus l'impression de les gonfler en fait avec mon souhait de ne pas avoir de péridurale. J'ai fini par craquer, j'ai dit pas ok.
Et puis on parlera également de la communauté médicale, les gynécos, les sages-femmes, les anesthésistes, qui ne seraient pas tous toujours très emballés quand une patiente leur explique qu'elle veut se passer de la péridurale.
Ouais, il me dit vous allez chialer comme toutes les femmes et puis vous allez demander à 6 la péridurale. Merci.
Ok, il y a encore donc du boulot et c'est de ça dont on va parler tous ensemble dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Benjamin Muller et je suis très heureux de vous présenter ce podcast où on va ensemble, chaque semaine, prendre le temps de parler d'un sujet souvent intime, sensible, parfois douloureux, parfois joyeux bien sûr, mais surtout sans tabou. Dans cet épisode, vous allez entendre des témoignages, j'espère qu'ils vous aideront dans vos réflexions et pour nous accompagner, pour débriefer Anna Roy. Bonjour Anna Roy.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme au Bluet à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'accouchement et notamment « Devenir maman pour les nuls », un livre qui marche bien, je le signale. Et vous êtes par ailleurs la sage-femme de l'émission « La maison des maternelles », ce qui fait qu'on se connaît bien tous les deux, on se tutoie en vrai. Je vous propose, et donc je te propose qu'on se tutoie ici également. Alors Anna, est-ce que la péridurale, c'est un sujet dont les futures mamans te parlent un peu, beaucoup ou pas tant que ça au final?
Ah si, passionnément, elles m'en parlent toutes. C'est un sujet qui les préoccupe beaucoup. Soit parce qu'elles en veulent, soit parce qu'elles en veulent pas. Donc c'est un sujet qui les concerne vraiment.
C'est récent qu'on t'en parle beaucoup ou c'est depuis que t'exerces?
Ah, depuis toujours. Je suis pas une vieille sage-femme, donc je n'ai pas connu l'époque où il n'y avait pas de péridurale. Donc oui, ça a toujours été un sujet de préoccupation majeure.
Alors elles te posent des questions sur l'aiguille, sur le fonctionnement. Elles te disent qu'elles aimeraient ne pas en avoir. Elles te demandent quoi en fait?
Alors elles posent des questions sur le déroulement technique, les contre-indications, les éventuelles complications, et puis aussi sur est-ce qu'il faut ou pas, parce qu'elles ont besoin de conseils souvent, donc elles nous demandent, à votre avis, est-ce qu'il faut en prendre ou pas?
Et tu réponds quoi dans ces cas-là?
Eh ben, je leur dis que ça dépend des circonstances et qu'on verra bien le jour J.
Voilà donc pour le constat. Donc, de plus en plus de femmes s'intéressent à la péridurale, à ce sujet, ce qui a été le cas de Maude.
Je m'appelle Maude, j'ai 28 ans. J'ai un premier enfant donc, qui a bientôt 14 mois, qui s'appelle Yann. Et donc un deuxième qui est là prévu pour fin octobre.
Maude qui ne voulait pas de péridurale, elle était claire là-dessus et elle explique pourquoi.
Je voulais pas de péridurale, c'était presque sûr début de grossesse. Quand j'ai commencé à me renseigner, c'était non dans ma tête.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous poussait?
Dans un premier temps, ne pas contrôler mon corps, ne pas sentir. Je voulais pas laisser faire quelqu'un d'autre. Je voulais pouvoir accoucher moi-même parce que c'est quand même naturel. Et en plus de ça, plutôt, pas la pression qu'il y avait sur ça, mais quand même le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous anesthésiste à l'hôpital. Et c'est tout de suite, pour la péridurale, il va se passer ça. Et puis, je comprends pas en fait, pourquoi est-ce que tout de suite on oriente les femmes vers la péridurale et pas...
Ils vous laissent pas le choix au début?
Pour l'anesthésie, parce que généralement un rendez-vous anesthésiste, c'est pour s'il y a une césarienne en urgence, etc. Mais c'est orienté tout de suite sur la péridurale. Donc ça va se passer comme ci, comme ça. Et puis quand j'ai donné mon projet et que je voulais pas de péridurale, on m'a rigolé au nez. Et on m'a dit que, si, comme tout le monde, j'allais demander et crier la péridurale à un moment donné. Voilà.
C'est-à-dire que vous lui dites, moi, c'est pas pour moi?
En tout cas, je lui dis que j'ai pas le projet, mais que, besoin, on sait jamais ce qui peut se passer.
Vous interdisez pas la possibilité.
Exactement, mais que mon projet premier, c'était de pas avoir de péridurale, ouais.
Et il rigole au sens propre?
Ouais, il me dit, vous allez chialer comme toutes les femmes, et puis vous allez demander à 6 la péridurale. Merci. Donc pas du tout encouragé dans le projet, et puis franchement, la façon de le dire, c'est
Vous allez chialer comme toutes les femmes et
ouais,
vous allez... D'accord, c'était un homme.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, non, on ne sait pas, je ne dis pas. Mais oui, là, c'était un homme en l'occurrence.
Alors Anna Roy, vous allez chialer comme toutes les femmes. Nous, ça nous a tous beaucoup surpris d'entendre ça. Est-ce que vous aussi, ça vous surprend ou finalement pas tant que ça?
Malheureusement, ça ne me surprend pas, mais surtout, ça m'agace au dernier degré. Je ne comprends pas qu'on jette encore du discrédit sur ce que les femmes puissent dire. Il y a vraiment des femmes qui ne souhaitent pas de péridurale et qui tiennent leur projet jusqu'au bout. Donc, ça me met plutôt en colère, en fait.
Alors évidemment que ça vous énerve, que ça vous met en colère, ça bien sûr, mais est-ce que c'est fréquent qu'on parle aussi crûment aux futures mamans ?
Ah ben, en tout cas, c'est pas rare, oui. Des femmes qui relaient ce genre de témoignages, on a beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai déjà entendu personnellement des anesthésistes ou des sages-femmes, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de corporatisme là derrière, ou même des gynécos parler un peu... rudoyer leurs patientes, je trouve ça inadmissible.
Oui, puis en plus, ça devient difficile pour la maman, parce qu'il faut oser assumer cette réflexion, faut oser répondre au docteur. C'est compliqué à vivre, j'imagine.
Bah oui, ça devient une bataille, alors que c'est pas une bataille. Si une femme ne souhaite pas de péridurale, il faut l'accompagner en ce sens. Puis si finalement elle change d'avis, on l'accompagne en ce sens. Au contraire, une femme qui en veut une aussi, et vice-versa. Enfin, on n'est pas là pour émettre des jugements de valeur ou sur ce que pensent, veulent ou désirent les femmes.
Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait lui dire, là, si on a un petit message à lui passer à cet anesthésiste
qui regarde, qui se mêle de ses fesses.
Donc, mis à part cette gentillesse de l'anesthésiste, Maud est restée motivée. Voilà comment s'est passé son accouchement.
Je suis arrivée, j'ai perdu les os, là. Donc, du coup, j'ai pas du tout eu de contraction au départ. Donc non, on m'installe dans une chambre classique et les contractions viennent petit à petit. Donc, pas de déclenchement, ça se fait naturellement. Et bizarrement, je ressens pas au début. Donc, en mail monitoring, je ressens pas du tout de contraction. J'étais déjà dilatée, etc., un petit peu. Et au fur et à mesure que ça vient, j'accepte, en fait. Je sais pas comment je le prends, mais je sais que ça va se terminer. Je sais que la contraction, elle est pas en durée continue et qu'il y a des pics, en fait, et que jusqu'à la fin, j'aurai des moments de répit, plus ou moins longs. Mais en tout cas, au départ, ils sont longs, les moments de répit. Donc non, je prends ça comme ça, et non, je me dis pas, oh là là, la péridurale tout de suite, en tout cas.
Vous gérez la douleur, en tout cas, au début.
Oui.
Et plus ça avance, plus le travail a duré combien de temps ?
17 heures. Alors, j'ai pas eu 17 heures de douleur. Hein. J'ai perdu les os et jusqu'à l'accouchement, il y a eu 17 heures. Je dirais que j'ai eu, peut-être 14 heures de contraction. Bon, c'est pas mal.
C'est pas mal déjà.
C'est pas mal.
Et pendant ces 14 heures, on fatigue forcément.
On fatigue.
Il y a des moments où vous avez flanché un peu ou vous
un
avez
dit... peu. Ouais. À ce moment-là, je dis à mon mari, je vais flancher. Et puis lui, je l'avais coaché avant. Donc, je lui avais dit, surtout, tu ne me laisses pas flancher. C'est sûr qu'à un moment donné, la douleur, la fatigue, le temps comme ça, je vais peut-être craquer. Donc, c'est non.
Là, j'aurais besoin de toi pour que tu prennes le relais.
Exactement,
et tu me
dises,
ouais. Tu
ouais, complètement. Et puis en plus, j'étais pas du tout en salle d'accouchement à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de salle d'accouchement. Donc, j'étais toujours en prénaissance avec ma voisine, gentille, qui elle hurlait parce qu'elle était en déclenchement. Elle a été ouverte à 1, donc c'était l'horreur. Ouais, voilà, on en est là. Et donc, je lui dis, non, là, je peux plus. Et il me dit, si, tu vas tenir. Et puis finalement, en fait, avec la douleur et. Bon, il y a eu vomissement, etc. Je passe les détails. Mais du coup, ça s'est tout de suite déclenché et ouvert à 9. Entre 4 et 9. Je suis passée de 4 à 9. Donc, je pense que la douleur, en fait, que je ressentais et j'en pouvais plus, c'est parce que j'étais en train. Enfin, le col était en train de se dilater et ça s'accélérait, ouais, complètement. Et là, on me dit, on n'a pas de salle de naissance. Donc, on va vous installer très, très vite dans une salle seule de prénaissance, mais le bébé n'est pas descendu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'avais la poche des os surée, mais elle n'était pas percée, mais je ne voulais pas qu'on la perce parce que je voulais que ce soit le plus naturel possible. Bon, arrivé à la fin, j'ai finalement dit, allez, on essaye. Et ça a mis quand même, je pense, une bonne heure hein, avant la poussée. Donc, entre 9 et 10, percer la poche des os, etc. Ouais, quand même.
Avec là des contractions très rapprochées, donc
ouais,
des
rapprochées.
Ouais. Et la fatigue, quoi, ça faisait.
C'est ça. Mais bon, là, pareil, hein, équipe de choc avec mon mari, je lui ai dit, je ne veux pas lâcher. Et puis, c'est pareil, il y a toujours des moments de répit, donc j'essayais de me concentrer sur. La contraction monte, il y a un pic, et quand ça redescend, il faut déjà que je me calme.
Ouais.
Voilà.
Et donc, on arrive au bout de 7 heures, vous accouchez.
C'est ça, j'accouche, et super équipe, pareil, ils m'ont accompagnée. Vous faites ce que vous voulez, quand vous sentez que vous avez envie de pousser, vous nous dites vous poussez. Vraiment super, un accouchement à 4 mains après avec mon mari, donc vraiment top, le top.
Accouchement de rêve,
parfait.
Sans péridurale. Donc bah, voilà, si c'était à refaire, et ce sera bientôt à refaire, j'imagine que vous allez essayer pareil.
Ah oui, oui.
Voilà Anna, donc Maud, ça a duré 14 heures. 14 heures, moi, ça me paraît quand même très très long. Elle est allée au bout, elle a tenu le coup. Elle fait preuve d'une force incroyable.
Et oui, oui, ça c'est quand même c'est assez remarquable. Sauf d'après ce que je comprends, c'est son premier bébé. Et donc, ouais, c'est assez remarquable.
Maud, elle parle de beaucoup de choses là dans le témoignage qu'on a entendu. J'aimerais qu'on revienne avec toi sur tout ça. Déjà, elle parle de sa gestion de la douleur. Elle explique bien que la douleur, elle montait. Elle savait au moment où ça allait monter que ça allait passer, etc. Bref, elle avait dû faire une bonne préparation mentale. Est-ce que toi, tu dirais que tout le monde est capable de tenir le coup pendant ces contractions sans péridurale. Ça te semble possible pour toutes les femmes ?
Si tout le monde est capable de gérer cette grande douleur, la seule chose, c'est qu'il faut en avoir envie et que, effectivement, comme on n'est pas tellement aidé dans les structures hospitalières, parce qu'il y a en général beaucoup d'accouchements dans les hôpitaux, du coup, c'est bien de s'être préparé en amont. Mais si les sages-femmes avaient du temps, il n'y aurait pas besoin de se préparer même, je dirais ça.
Alors, elle parle de l'importance de l'équipe médicale. J'imagine qu'avec une équipe médicale qui te soutient, ça change tout.
Parce que si vous avez une équipe qui est débordée et qui, toutes les 5 minutes, vient lui dire « Vous êtes sûr que vous voulez pas une péridurale ?» Vous êtes sûr, la nana, elle finit par craquer, c'est normal. À l'inverse, si vous avez une équipe soutenante qui dit « C'est génial ce que vous faites, continuez, je vais vous donner peut-être un ballon, je vais vous faire ci, on va faire ça », c'est pas du tout la même chose. Le vécu n'est pas du tout le même.
Elle parle aussi du rôle du papa qui, là, voilà, ils ont vécu la chose en équipe, il l'a beaucoup soutenu, visiblement, ça a été très important pour elle. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de voir des pères qui flanchent? Après tout, on va pas les juger, on peut aussi comprendre. T'en vois de temps en temps des pères qui en peuvent plus?
Ça arrive, il y a toutes sortes de papas. Il y a des papas super motivés qui arrivent à faire le job de coach, et puis il y a des papas qui n'y arrivent pas du tout. Ça, c'est assez difficile à prévoir à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a des mecs super qui ont vraiment confiance en eux et qui finalement s'écroulent. Et l'inverse est vrai aussi. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup qu'ils viennent en préparation à l'accouchement.
Le sang péridural, c'est difficile aussi pour le papa, du coup?
Alors évidemment, on va me hurler dessus en disant ça, mais c'est aussi, oui, c'est aussi
on
difficile.
On a bien dit aussi, on ne peut pas comparer, évidemment.
Parce qu'en fait, ils sont passifs, d'une certaine façon, et que c'est très difficile, parfois, de voir la personne qu'on aime le plus avoir un mal de chien, quoi.
Souffrir pendant 14 heures. 14 heures, Anna, on peut dire que c'est un accouchement très long, là.
Non, pour un premier, c'est pas très long.
Donc, pour Maud, ça s'est bien passé. Et oui, c'est important de le dire. Ça arrive que ça se passe bien. Ça arrive même souvent. Ça arrive tous les jours. Mais parfois, c'est vrai, certaines craquent, comme elles disent. Ça a été le cas de Jessica.
Je suis Jessica Bolo, 27 ans, et ma fille s'appelle Léana, elle a 17 mois.
Jessica, non plus, ne voulait pas de péridurale.
En fait, c'était une grossesse qui était très très désirée. Et donc, je voulais ressentir toute ma grossesse de A à Z. Et je voulais vraiment, l'accouchement, je voulais le vivre à 200%. Donc, dans l'idéal, effectivement, je ne voulais pas cette péridurale pour pouvoir ressentir vraiment toute ma grossesse jusqu'à la fin, quoi.
Et quand t'en parles au gynéco et à l'anesthésiste, qu'est-ce qu'ils te répondent? Tu te sens soutenue? Tu sens que c'est un sujet tabou?
Pas du tout. Je me sens pas du tout soutenue. Le gynécologue m'a tout de suite dit pourquoi ne pas prendre la péridurale, c'est une super invention. Ma mère a accouché sans péridurale, donc c'est vraiment un truc archaïque, quoi. Donc pourquoi la refuser? Non, faut pas souffrir pour rien. Moi, je vous la conseille. L'anesthésiste m'a moins dissuadée, on va dire. Bon, il a fait son boulot d'anesthésiste, mais ouais, le gynécologue n'était pas du tout avec moi, du tout soutenu. Il m'a pas du tout soutenu.
Voilà, une fois encore, donc, Anna Roy, une équipe médicale pas très emballée, pas très chaude, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'idée de ne pas faire de péridurale. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place deux petites secondes et que vous nous expliquiez pourquoi, quand une patiente vient et dit « moi, je ne veux pas de péridurale », pourquoi l'anesthésiste de tout à l'heure, ou là, ce médecin, tire la tronche? Qu'est-ce qui l'embête? Qu'est-ce qui change pour lui?
Pour un gynécologue, pas vraiment grand chose en réalité, parce qu'ils interviennent souvent en cas de forceps et donc au dernier moment. Donc alors c'est vrai que pour les équipes ça change, parce qu'une femme qui a pas de péridurale, faut s'en occuper beaucoup plus qu'une femme qui a une péridurale et qui nécessite moins qu'on l'accompagne.
Parce qu'on entend plus souvent dire que tel anesthésiste a refusé ou que tel médecin a un peu grincé des dents, alors que c'est surtout pour la sage-femme que ça change considérablement le boulot. Et pourtant, les sages-femmes semblent mieux accompagner les femmes. Comment tu l'expliques, ça?
C'est vrai qu'il y a les anesthésistes, mais maintenant, ils sont rares. Hein. Ceux qui aiment bien qu'on pose la péridurale tout de suite, comme ça, entre guillemets, ils sont tranquilles. Mais en fait, on n'en croise plus tellement. C'est un peu l'ancienne génération qui a vu le sang péridural et qui se dit « mais elles sont folles, ces femmes, on a ça maintenant et elles ne nous en veulent pas ». En fait, c'est une sorte d'incompréhension, hein, souvent.
Et alors, il y a la question de l'argent qui peut se poser. Dans certaines cliniques privées, les anesthésistes sont payés à l'acte. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que selon toi ça arrive, t'en as déjà rencontré, des anesthésistes qui vont insister pour avoir leur chèque à la fin de la journée?
Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas parler au nom des anesthésistes. Mais oui, il y en a qui, dans les cliniques privées, moi je n'ai jamais travaillé personnellement. En tout cas, dans les hôpitaux publics, rassurez-vous, ils ne gagnent pas plus d'argent quand ils font des péridurales. Donc ça, au moins, on sait qu'ils ne le font pas pour l'argent.
Voici donc comment s'est passé le jour J, enfin, les jours J, puisque vous allez l'entendre, ça a été long. Ça a été très long pour Jessica.
Le jour de l'accouchement, ça s'est passé. Donc j'arrive aux urgences peut-être à 2 heures de travail déjà. Je voulais pas arriver trop tôt parce que je savais que ça allait être long. Je fais part à l'équipe médicale de mon souhait de pas avoir la péridurale, du moins tout de suite. Oui, pas de souci. On vous laisse faire. Donc allez-y, marchez. Vous posez vos affaires là et puis vous marchez. Donc on marche et toutes les heures en fait, on est examiné pour voir effectivement si le col a bougé ou pas. Et le col bougeait pas beaucoup. Et toutes les heures, quand elle m'examinait, « Vous êtes sûre que vous voulez pas la péridurale ?»« Non, mais parce que là, vous êtes à 3. Hein, parce que là, vous pouvez l'avoir, la péridurale. » Je dis « Mais non, mais je souhaite pas avoir la péridurale. Je vous l'ai déjà dit. Et à chaque fois, toutes les heures, c'était rebelote. Mais vous êtes sûre? Mais vous êtes sûre? Donc au bout d'un moment, bon, ça va, les 3-4 premières heures, ça va. Il y a le chéri qui soutient derrière. Donc bon, on se sent épaulé, mais on se sent pas du tout épaulé par l'équipe médicale. Quoi. Et puis elles m'ont rien donné pour faire passer les contractions. J'ai été obligée de moi-même leur demander à ballon pour m'aider. Heureusement que mon conjoint, il savait ce qu'il avait à faire, m'appuyer sur le dos. En plus, j'avais des contractions par les reins, donc c'était un peu compliqué. Et puis au bout de 9 heures de travail,
il y a un moment, plus. Tu fatigues. Ouais. Quoi.
Ouais. J'en pouvais plus. Et puis je voyais que l'équipe médicale, pareil, j'avais plus l'impression de les gonfler en fait, avec mon souhait de ne pas avoir de péridurale. J'ai fini par craquer et je leur ai dit bah, ok. Mmh. Puis en plus, je ne sais pas si c'est partout dans toutes les mêmes maternités, mais quand on n'a pas la péridurale, on reste aux urgences. On monte en fait qu'en salle d'accouchement à partir de 8 de dilatation. Et les urgences, c'est sympa la nuit, mais à partir de 9h du matin, il y a tout le monde qui arrive avec tous les enfants qui courent. Bon, toi, t'es là en train de souffrir, en train de te tenir le dos avec tes contractions. C'est pas très agréable de se balader devant tout le monde. Quoi. Sur le coup, j'étais un peu déçue de moi parce que je voulais pas craquer. Je voulais vraiment pas craquer, donc sur le coup, j'étais un peu déçue. Après, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je commençais vraiment à avoir mal et j'avais les nausées en plus qui étaient là. Donc, ça commençait à devenir difficile. Donc, j'ai eu la péridurale, donc en salle d'accouchement. La péridurale que je n'ai absolument pas sentie. J'ai pas eu mal du tout. La péridurale se passe très bien. Elle me soulage bien. Je sentais tout, je pouvais me mettre debout, j'ai varié toutes les positions. Bah, il fallait en plus que je fasse plusieurs positions parce que ma fille était mal positionnée. Et mon accouchement était très très long, il a duré 22 heures. Donc l'injection de péridurale s'est terminée et là on m'a redemandé si je voulais une dose. Chose que j'ai refusée parce que du coup je me suis dit « Ah, ça y est, c'est bientôt, c'est parfait, j'ai plus les effets de la péridurale, je vais pouvoir accoucher sans péridurale en fait. » Donc ça, j'avais eu 10 heures de repos en clair. Et puis en fait non, ma fille était vraiment mal placée, elle avait son dos collé contre mon dos, donc il a fallu faire une manipulation. Et cette manipulation, elle s'est faite du coup au bloc opératoire, parce qu'on avait testé une première fois et ça s'était mal passé. Donc du coup, on a testé, enfin la refaite au bloc opératoire. Et là, pour le coup, une fois qu'on va au bloc opératoire, on met une dose énorme pour la péridurale. Et là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment rien senti. Donc mon accouchement, j'ai vraiment rien senti.
Ça reste une frustration ?
Ouais. Oui, ça reste une frustration parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment sentir. Après, je regrette pas parce que bah voilà, c'est comme ça.
De toute façon, au final, t'avais pas le choix.
Voilà, j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit césarienne. Au final, voilà, j'ai réussi à accoucher par voie basse, donc j'en suis fière. Effectivement, dans l'idéal, j'aurais préféré ressentir tout mon accouchement. Quoi.
Voilà, Narwa, donc Jessica, elle dit, hein, j'ai été déçue par moi-même, j'ai été frustrée de ne pas tenir et de demander finalement la péridurale. Est-ce que c'est fréquent, ça, que les femmes soient déçues d'elles-mêmes?
C'est hyper fréquent, ça m'est arrivé moi-même, donc je connais très bien ce sentiment de frustration. Et en même temps, il faut dire à toutes les femmes enceintes que ça dépend tellement des circonstances de leur accouchement. Quand on a un accouchement hyper long ou avec un déclenchement ou des circonstances un peu particulières, je crois qu'il n'y a pas d'échec. Il y a pas d'échec quoi. On peut pas, c'est tout. Je veux dire, on peut pas. Il y a même des fois des péridurales qu'on dit d'indication médicale parce que c'est trop quoi.
Surtout que là, elle parle de manipulation. Manipulation en clair, c'est
en fait
le bras entier.
Alors c'est la main de la sage-femme et on va tourner le bébé à l'intérieur. Ça fait un mal. Ouais. Je vous laisse imaginer, ça fait un mal de chien. En plus des contractions. Hein. Mmh. Et donc, raisonnablement, ouais, c'est bien d'avoir une péridurale, là, pour le coup.
Et alors, pourquoi tu penses qu'il y a cette déception? Elles se mettent trop la pression, c'est pas ça?
Ça, pour le coup, je pense qu'elles n'ont pas été assez préparées. Je pense qu'il faut savoir dire aux femmes enceintes, dites-vous, j'aurai la péridurale ou j'aurai pas la péridurale, mais peut-être ce sera le contraire et qu'il faut rester complètement ouvert et que ce ne sera pas des échecs. Il faut vraiment leur dire en amont que tout est possible. En fait, quand on met un pied en salle d'accouchement, on peut en avoir, on peut ne pas en avoir, on ne sait pas.
Alors elle dit, on m'a rien donné pour m'accompagner, j'ai dû demander moi-même un ballon. Qu'est-ce qu'on aurait pu lui proposer pour l'aider, pour que ça se passe le mieux possible?
Alors ça, c'est à la décharge des personnels hospitaliers, des sages-femmes, des médecins, c'est qu'on n'a pas été formés à prendre en charge un accouchement sans péridurale. Donc soit les professionnels ont fait des formations complémentaires, soit ils n'en ont pas fait, mais c'est pas évident de s'occuper de quelqu'un qui n'a pas de péridurale. Donc des fois ils ont des ballons, des fois ils ont des baignoires, mais des fois ils n'ont rien du tout, et ils savent pas faire, donc ils font un peu ce qu'ils peuvent aussi. Hein. Ouais. Donc inscrivez-vous dans une maternité si vous avez un projet d'accouchement sans péridurale, dans une maternité qui a l'habitude de le faire. Hein.
Avec des salles nature ou des salles physio, ou en tout cas là où elles peuvent prendre des bains ou en tout cas les choses sont mises en place pour les aider, hein, c'est ça. Il y a une autre question là qui a été évoquée. Est-ce qu'on peut avoir une péridurale et néanmoins ressentir l'accouchement?
Ah bah bien sûr, heureusement. Et puis les anesthésistes sont de plus en plus forts dans le dosage et les drogues qu'ils utilisent. Et donc oui, bien sûr, on sent le passage du bébé. Il faut sentir le passage du bébé, sinon c'est très difficile d'accoucher.
Alors il y a un autre cas de figure, celui où la future maman ne veut pas de péridurale par peur. La peur de l'aiguille. Ça a été le cas de Coralie.
Alors je m'appelle Coralie, j'ai 32 ans et mon fils s'appelle Noé, il a 20 mois.
Et donc Coralie, les hôpitaux, les blouses blanches et les aiguilles, c'est pas son truc.
Ça me faisait trop peur. J'ai la phobie du sang et des hôpitaux. Du coup, c'était très compliqué pour moi d'imaginer d'accoucher. Et donc, j'en voulais pas. Pour cette raison-là, du coup, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait pas mal de préparations un peu dans ce sens-là. J'ai même essayé l'aptonomie, pas trop accroché, mais voilà, j'ai essayé vraiment toutes les méthodes un peu alternatives, on va dire.
Mais la phobie, c'était la phobie de l'aiguille, donc.
Ouais, de tout.
Et alors, le jour de l'accouchement, comment ça s'est passé? La douleur a-t-elle été supérieure à la peur de l'aiguille? Eh bien non, Coralie.
Finalement, j'ai dépassé le terme. Il se trouve que Noé était très gros, donc j'ai été déclenchée. Du coup, quand j'ai dit que je voulais pas de péridurale, les sages-femmes m'ont dit « bah si vous en voulez pas, on vous soutient, mais sachez qu'en cas de déclenchement, c'est quand même plus difficile. »
Et oui, on explique que c'est plus douloureux.
Il paraît que c'est plus douloureux. Après, moi, j'ai pas d'éléments de comparaison, donc je peux pas vous dire, mais voilà. Et elles m'ont dit, de toute façon, vous pouvez changer d'avis jusqu'à ce qu'on voit les cheveux du bébé, on peut poser la péridurale. Donc, ça me laissait quand même une marge de manœuvre. Et au bout de, je sais plus, 5-6 heures, quelque chose comme ça, elles m'ont dit, on va rompre la poche des os, ça va faire encore plus mal. Et là, je leur ai dit, bon, là, on va mettre la péridurale et après, vous faites ce que vous voulez. Et heureusement, parce que finalement, le travail a duré 16 heures et après, ça s'est terminé en césarienne d'urgence. Donc au moins d'avoir la péridurale, déjà ça m'a permis de tenir et surtout ça m'a permis d'être réveillée en césarienne. Sinon c'était l'anesthésie générale, donc même si pas forcément hyper bien vécu la césarienne, au moins j'étais consciente, quoi.
Ouais. Et comment vous avez fait pour au moment de l'aiguille? Du coup vous aviez tellement mal que ça s'est passé tout seul ou alors ça vous stressait?
Ah non, j'avais hyper peur et du coup...
Malgré
donc,
les contractions, les douleurs, vous aviez encore peur?
Ouais, j'avais vraiment super peur. L'anesthésie c'était très sympa et très rigolo, heureusement. L'infirmière donc était en face de moi et là où j'ai accouché, moi j'ai accouché à Necker. Le papa peut être là pour la péridurale, je crois que c'est pas le cas de tous les hôpitaux. Donc il était aussi en face de moi et lui voyait l'anesthésiste en fait qui commençait à faire des têtes bizarres en disant on va pas y arriver parce qu'en fait dès qu'il essayait je me braquais, enfin j'avais peur. Et du coup l'anesthésiste faisait des signes en fait à l'infirmière que moi forcément je voyais pas mais que mon mari a vu et il s'est dit bon là il faut faire quelque chose parce qu'on va pas y arriver. Et du coup là il a commencé à me dire oh, pense à notre voyage de noces, pense aux petits poissons, pense à la plage, au cocktail. Et là je lui dis ah, non mais je vais pas y arriver et en fait l'anesthésiste a dit bah c'est bon.
Donc c'est votre mari qui a réussi à...
Donc c'est lui qui a réussi en fait à vraiment me détourner mon attention. Et du coup l'anesthésiste a rigolé en disant que d'habitude il disait que c'était 80% la maman et 20% lui pour poser la péridurale et que là c'était au moins 40% lui qu'il allait l'embaucher et l'emmener pour poser toutes les péridurales parce qu'il était hyper impressionné. Donc finalement, heureusement que... Ouais. Qu'il était là, quoi.
Alors Anna, la phobie, la peur de l'aiguille, c'est fréquent ça?
C'est très fréquent la phobie de l'aiguille. Alors je ne veux pas inquiéter les femmes, mais en fait la phobie de l'aiguille disparaît un peu quand on a un mal de chien. On a une contraction qui nous terrasse en deux. Je vais vous dire, la petite aiguille d'anesthésie locale de la péridurale, elle passe comme une lettre à la poste.
C'est plus un sujet. Mais Coralie, elle disait quand même que bah, elle, ça l'a bloqué, quoi.
Ah mais oui, non mais je comprends. Effectivement, avant d'être dans la situation, ou dans le cadre d'un déclenchement où on n'a pas encore mal, ça peut être difficile. Mais pour le coup, là, les équipes savent faire. Hein. On s'est bien rassuré, expliqué, etc. Normalement, en tout cas, on arrive à prendre en charge les femmes qui ont des phobies des aiguilles, on a l'habitude. Hein. C'est assez fréquent, en fait.
Est-ce qu'en cas de déclenchement, il y a forcément péridurale?
Non, pas du tout. Il y a des femmes qui arrivent à être déclenchées et ne pas avoir la péridurale.
Deuxième question, est-ce que cette péridurale, on peut la poser quasiment jusqu'au bout?
On peut la poser si on estime que le bébé est là dans plus de 45 minutes. Parce que le temps d'appeler l'anesthésiste, qui vienne, qui regarde le dossier, qui pose la péridurale et que les drogues soient efficaces, c'est 45 minutes. Donc voilà.
Tu sais quoi, ça me surprend de t'entendre parler de drogue. Vous parlez tout le temps de drogue
Oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre.
Par rapport au boulot de l'anesthésiste, c'est un peu le dealer de l'hôpital?
Ah, c'est le dealer à mort, ils ont des produits de fou.
Ah bah tiens, justement, en parlant de produits. En préparant ce podcast, j'ai été surpris par une chose. J'ai reçu un message de Capucine sur Instagram.
Je suis Capucine, j'ai 31 ans et mon fils Elliot a 5 mois vendredi.
Capucine qui m'a raconté avoir accouché en Australie il y a quelques mois et là-bas, la péridurale, c'est pas la norme. C'est pas du tout la norme.
Moi, je voulais la péridurale et tout de suite, la sage-femme sur qui je suis tombée, qui était assez âgée, m'a dit qu'elle comprenait pas parce que c'était pas comme ça qu'ils faisaient en Australie, que eux c'était d'abord le gaz et ensuite la morphine. Pour le gaz, j'étais pas forcément bien chaude, parce que bon, j'avais pas de retour, de recul pour ça. Et pour la morphine, j'avais discuté avec une fille là-bas, une Française, enfin une Hollandaise qui avait accouché en Australie, sous morphine, et elle m'avait raconté comment ça s'était passé, c'est-à-dire mal, et j'avais pas du tout envie d'avoir la même expérience. C'est pas à long terme comme la péridurale, ça va soulager pendant un moment, mais surtout ça passe dans le bébé. Et son bébé, à elle, il était sorti tout gris et bien actif, quoi.
Anna Roy, un accouchement sous gaz ou sous morphine, t'en avais déjà entendu parler, toi, sous morphine, vraiment ?
Oui, on en utilise en France, on utilise des dérivés de la morphine. Mais on n'est pas très friand, on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser, mais ça peut. Les Anglais l'utilisent beaucoup.
Toi, ça te choque pas, mais quand elle dit, par exemple, que ça passe dans le bébé, ça fait un peu peur, ça, non ?
Alors, ça passe dans le bébé, mais quand même à des dosages assez faibles. C'est pour ça que nous, on ne l'utilise pas proche de l'accouchement. En général, c'est vraiment qu'on l'utilise en début de travail. Mais en fait, les Français, nous, on n'a pas trop de recul là-dessus. On n'est pas. Il faudrait demander à des Anglais. Et je sais qu'ils utilisent beaucoup ça et qu'ils n'ont pas des taux de problèmes avec les bébés plus que nous, hein, même voire moins. Donc, je ne sais pas. J'ai pas de... Quant au gaz, on l'utilise, nous, pour le coup.
Et le gaz, c'est quoi ? C'est du gaz hilarant pour shooter un petit peu la patiente, c'est ça ?
Alors, c'est pas miraculeux. Hein, mais ça fait. Il y a des femmes que ça fait rire. Parce que ça fait rire, hein, en fait.
T'as déjà essayé, toi ?
Ah bah, bien sûr. Toutes les sages-femmes, on a tout essayé, enfin quasiment toutes.
Merci beaucoup, Anna Roy. Merci pour ces explications. Je rappelle que donc vous êtes sage-femme obluée, qu'on vous retrouve dans l'émission La Maison des Maternelles, bien sûr, sur France 5, et qu'on peut aussi vous lire Devenir Maman aux éditions First, livre qui cartonne, et c'est bien normal, car il est vachement bien. Merci, Anna.
Merci à toi.
Voilà, c'était le premier épisode du podcast des Maternelles. Un podcast signé Benjamin Muller pour Jérôme Caza de P2L et France Télévisions, avec l'aide précieuse d'Alexia Di Ciocio, de Sophie Cressot pour le graphisme, Alexandre Ferreira était à la réalisation. Merci à Maud, à Jessica, à Capucine et Coralie pour leur témoignage, ainsi qu'à Anna Roy pour son décryptage. Si ce podcast vous a plu, vous a inspiré, vous a aidé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À vos copines, à vos copains, à vos sœurs, à vos mères, à vos voisines ou à votre beau-frère, n'hésitez pas, parlez-en. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne de podcast sur, par exemple, Apple Podcasts, SoundCloud ou encore Podcast Addict. Et si en plus, vous nous mettez une petite note, voire un commentaire, là, ce serait parfait. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez voir un sujet traité sous cette forme, donc sous la forme de podcast, n'hésitez pas à me suggérer des idées sur Instagram, c'est encore le plus simple. Je vous dis à bientôt, j'espère.